commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés in utero. Mais peut-être pas. Peut-être avons-nous gardé dans notre mémoire les goûts et les odeurs que nous avons sentis in utero. Alors justement, là, on est dans votre bureau, Benoît Chal, et j'ai tout de suite vu en entrant. Donc là, c'est une photo, c'est un nouveau-né, c'est 4 photos d'un nouveau-né. On présente un coton-tige et on lui fait renifler quelque chose.
C'est ça, c'est ça. Alors, c'est des mimiques faciales qui sont provoquées par différentes odeurs. Et certaines mimiques sont des clairs sourires d'acceptation, alors que d'autres sont vraiment des mimiques de dégoût très, très affirmées.
Et vous savez ce qu'on faisait sentir sur les dégoûts? Parce que la dernière photo, c'est un dégoût très prononcé.
Je crois que la dernière photo, c'est une formule lactée artificielle.
Ah.
Et là, l'enfant, qui ne sont pas très bons. Il y en a qui ne sont pas bons. Les laits hypoallergéniques, qui ont les odeurs un peu de protéines passées. Et donc ça évoque chez les nouveau-nés, à la première présentation, ce genre de mimique.
Terrible.
Quand ils le consomment de façon régulière, cette mimique disparaît. Donc on s'habitue à tout. Ils s'habituent à beaucoup de choses.
Disons. Et c'est ce qu'on appelle l'habituation.
C'est ça.
C'est ça.
La familiarisation, l'habituation.
Nous sommes toujours avec Benoît Chal dans son bureau du Centre européen des sciences du goût de Dijon. Directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'olfaction, Benoît Chal a consacré sa vie à l'étude des fœtus. Une passion que rien n'a jamais entamée. Le 21 septembre 2022, la revue Psychological Science publiait les résultats d'une étude sur les expressions du visage de fœtus après que leur mère ait mangé des aliments sucrés ou amers.
Alors, c'est une dernière expérience réalisée à Durham, au Royaume-Uni, par Nadia Reisland et son équipe, qui a consisté de façon extrêmement simple à demander à des mères de consommer soit de la poudre de carotte, soit de la poudre de chou calé. Donc la carotte, c'est une saveur plutôt sucrée, et le chou calé a une saveur assez clairement amère, pour l'adulte. On ne sait pas ce que ça fait chez le nouveau-né. Et là, la nouveauté de cette expérience, c'est qu'on a bénéficié du concours d'échographistes très chevronnés qui ont mesuré, dans les 3 quarts d'heure qui suivaient l'ingestion maternelle, ils ont mesuré les réponses faciales, les mimiques faciales des fœtus à cette consommation maternelle, par la bouche, hein, par l'ingestion. Beyza Ustun, qui est une doctorante turque qui a fait l'expérience, elle a pu montrer que les mimiques faciales des fœtus, pendant ce temps après l'ingestion maternelle, étaient complètement différentes selon que la mère avait ingéré la poudre de carotte ou la poudre de chou calé.
Alors là, je vais vous demander un exercice difficile, Benoît Chal, c'est de me décrire ces visages, parce que les photos de ces échographies sont éclatantes, c'est-à-dire on ne peut pas douter du résultat. C'est ça qui est très surprenant.
Oui.
Qu'est-ce qu'on voit? Comment ils sont, ces fœtus? D'abord, ils ont quel âge?
Alors, ces tests ont été faits à 2 périodes, à 32 semaines gestationnelles et 38 semaines. Au début du 3e trimestre
et fin du 3e trimestre.
Fin du 3e trimestre, c'est ça. Et donc, ce qu'on a pu montrer très clairement, c'est qu'à l'ingestion de carottes, correspondaient des mimiques faciales du fœtus qui étaient plutôt ressemblantes à des mimiques faciales d'acceptation. C'est ce qu'on verrait chez un nouveau-né, on dirait qu'il accepte, hein, il apprécie. C'est plutôt des sourires, en tout cas pas des dégoûts. Alors que très clairement, dans l'observation de la réponse après l'ingestion du chou calé, les fœtus exprimaient des mimiques de rejet, des froncements de sourcils et des abaissements des coins des lèvres qui sont associés chez l'adulte ou chez l'enfant plus âgé, même le nouveau-né, à une réponse à des substances qui sont plutôt dégoûtantes.
Vous avez été surpris par ces résultats, vous-même Benoît Chal, pour que ça soit si net et aussi ces mimiques?
La surprise, c'est qu'une quantité aussi faible, c'était à peu près 400 mg de substance, soit carotte, soit chou calé, puisse provoquer, dans la demi-heure qui suit, des réponses aussi clairement différenciées. Ça, ça nous a surpris et on ne se l'explique pas encore. Quels sont les mécanismes sous-jacents ? On élabore, on fait des hypothèses, mais on ne se l'explique pas vraiment que ce soit aussi peu de substances puissent provoquer des réponses aussi franches.
Et ça, c'est une expérience qui a été faite en septembre dernier, c'est-à-dire c'est tout nouveau.
Elle a été publiée en septembre dernier et a été faite beaucoup pendant la période juste avant le confinement. Alors, il y a une longue analyse. L'analyse des mimiques faciales, c'était quelque chose de très très long. Il faut compter à peu près 2 heures d'analyse pour 2 minutes d'enregistrement.
L'objectif de cette étude qui a été publiée en septembre dernier, c'est de voir si une exposition répétée à des saveurs moins appréciées, comme le chou calé, pourrait, au fil du temps, amener les fœtus à s'y habituer et aiderait les nouveau-nés à mieux les accepter. Benoît Chal pense que cette expérience pourrait jouer un rôle majeur dans la compréhension du développement de nos récepteurs gustatifs et olfactifs. Sur le site d'Inutero, sur franceinter.fr, vous pouvez voir ces visages de fœtus souriant ou faisant la grimace. C'est assez amusant à regarder et cela pose évidemment un petit millier de questions. Benoît Chal est un spécialiste de l'olfaction, mais il est aussi un spécialiste du goût chez le fœtus.
Alors la gustation fonctionne très bien chez le fœtus.
Malgré l'eau, encore une fois.
Malgré l'eau, la gustation, elle fonctionne dans l'eau. Hein. La bouche est baignée de salive en permanence, donc la langue est humide, une langue sèche, ça ne fonctionne pas.
J'aurais pu y penser.
Donc ça fonctionne toujours. Toujours en milieu aquatique. Et les récepteurs gustatifs sont fonctionnels dès la naissance et avant la naissance chez le fœtus. Et on a pu montrer en particulier en testant des prématurés. Ça, c'était une autre voie qui a montré qu'avant le terme de la gestation, les enfants sont déjà capables de détecter de façon assez fine des odeurs et des saveurs. Et les prématurés, finalement, répondent dans la morphologie de la réponse faciale, répondent de façon très, très voisine des nouveau-nés à terme. Ils répondent de façon très positive à des saveurs sucrées, de façon plutôt négative à des saveurs acides et de façon clairement négative à des saveurs amères. Sauf peut-être pour l'urée.
Parce qu'ils ont l'habitude, on a apprise.
Ils baignent dans l'urée,
donc ils l'ont apprise.
Et voilà. Donc toutes ces modalités fonctionnent très bien. Et probablement participent aussi de la relation du fœtus en développement avec son milieu amniotique. Il y a des expériences qui sont déjà anciennes, des années 70, où on essayait d'avoir une stratégie pour réduire la sursécrétion de liquide amniotique qui gonflait les ventres des femmes de façon exagérée et extrêmement inconfortable. Et donc les gynécologues se sont dit, on va essayer de réduire ce volume amniotique en faisant boire, en faisant déglutir au fœtus, et qu'il fasse rentrer ça et que ça repart du côté maternel. Et donc certains ont essayé de le faire en mettant du sucre, du saccharose ou du glucose dans le milieu amniotique. Et effectivement, ils avaient tendance à boire, à déglutir plus de liquide amniotique. Par contre, ce qui était très net, c'est quand on mettait de l'amertume, là, ils s'arrêtaient de boire. Donc il y a une possibilité de réelle manipulation du fœtus par les saveurs et les odeurs, si on veut. Manipulation, non pas au sens expérimental ou au sens sanitaire. Dans tous les cas, la mère exerce une influence très claire sur le développement sensoriel et la chimio-sensorielle du fœtus. Manipulation, il y a une intentionnalité derrière, réellement vouloir modifier quelque chose. On pense qu'on n'en est pas là encore, du moins pas dans votre laboratoire, non.
Est-ce que je voulais vous montrer, attendez, où est-ce qu'il est ce truc? Pour le fœtus, il y a une image qui est absolument, mais est-ce que je l'ai là-dessus ou est-ce que je l'ai ailleurs?
Je regarde les photos en attendant. Et vous avez plein de dessins d'enfants.
Oui.
Sur les murs du bureau de Benoît Chal au Centre européen des sciences du goût de Dijon, il y a des photos de nouveau-nés, de prématurés, de l'apro. Et dans son ordinateur, il y a des trésors. On les regarde ensemble.
C'est formidable, dans votre ordinateur, on voit des fœtus, des tétés, des bébés au sein. Vous avez aussi des représentations picturales. Des peintures de femmes galettes.
C'est ça. Ça, c'est l'image de ce fœtus de rat.
De rat.
Voilà, c'est le comportement du fœtus qui rejette une odeur.
Ah oui, ce dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà. Avec ses deux pattes sur sa gueule, qui repousse.
C'est ça. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est la réponse d'un lapro. Voilà, là, il y a du lait frais.
D'accord. Alors, ça vous montre une image d'un petit lapro dans les mains.
D'abord là, là, donc on fait buller un gaz inerte dans le lait frais et on amène au museau du lapro par ce dispositif. Et voilà la réponse du lapro.
Il a les yeux fermés, il faut le dire. Fermés.
Oui, il a les yeux fermés. Il n'y a, aucune, il y a ni audition ni vision avant la fin de la première semaine chez le lapro.
Et là, il est en train de...
Il répond immédiatement.
C'est-à-dire, il s'est approché, il a d'abord tourné la tête et il s'est approché. Et les yeux fermés.
Et ça, c'est l'effluve du lait frais. Okay. Donc là-dedans, il y a plein de choses. Il y a l'odeur apprise.
Ouais.
Et il y a la phéromone. Okay.
Ouais.
Maintenant, c'est quoi la phéromone?
Et ça, c'est le lait de sa mère?
Ça, c'est le non, c'est le lait d'une lapine.
C'est le lait d'une lapine.
Ouais, et la phéromone, c'est pas... Alors, l'odeur apprise, c'est l'odeur propre à la mère. C'est propre à l'individu.
Mais pas la phéromone.
Et la phéromone, c'est propre à l'espèce. Donc on peut aller prendre du lait d'une lapine d'Afrique du Sud, le présenter à un lapin ici en France, il répondra.
Benoît Chal et son équipe de chercheurs ont beaucoup travaillé sur les propriétés du lait maternel. Benoît Chal a étudié en particulier une phéromone présente dans le lait de la lapine et il a fait une découverte qui continue de nourrir sa passion et sa fascination pour l'olfaction.
Alors l'une des découvertes intéressantes qu'on a pu se faire dans cette équipe ici à Dijon, c'est la phéromone mammaire de la lapine. Et cette phéromone, c'est une substance qui est émise dans le lait et qui déclenche de façon absolument inconditionnelle chez le lapro une réponse d'attraction et de prise en bouche d'un objet qui porte cette odeur.
C'est-à-dire un réflexe?
Quasiment un réflexe. C'est un automatisme.
Sans apprentissage?
Sans apprentissage, puisqu'on n'a pas retrouvé cette substance dans le milieu prénatal, ni dans le liquide amniotique, ni dans le sang de la mère. On ne retrouve pas cette substance, et pourtant les nouveau-nés y répondent d'emblée lors de la première présentation après la naissance. Le lapin, quand on lui présente du lait frais de lapine, il va répondre de façon extrêmement rapide au lait, parce qu'il y a cette phéromone. En principe, dans la définition, quand on dit phéromone, c'est une substance qui n'est pas apprise, qui n'a pas besoin d'être apprise, mais qui est très efficace, ce comportement. Et là, je vais vous montrer la réponse à la phéromone. Donc là, c'est une réponse à une seule substance, une molécule. C'est un lapro. Et là, on va lui présenter une baguette de verre sur laquelle il y a une micro-goutte de phéromone.
Oh !
Réponse immédiate.
Il la chope.
Il la chope direct. Et il essaye de la téter. OK ?
Ouais, c'est impressionnant.
En fait, il y a plusieurs mécanismes qui fonctionnent de façon parallèle. Il y a, chez le lapin du moins, il y a l'apprentissage fœtal.
Bien sûr. In utero.
Il apprend et ce qu'il apprend va lui servir éventuellement après la naissance. Chez le lapin, il y a cet autre aspect où il y a une molécule qui n'a pas besoin d'apprendre et qui est un signal automatique. Un chimio-signal qui évoque des réponses automatiques.
Et qui lui dit « mange-le ».
Mange-le. Quoi que ce soit, tu manges quand il y a ça. Alors, on a étudié ces mécanismes chez différents mammifères. Chez le lapin, la souris, l'humain. Chez la souris, si on fait la même expérience, on prend du lait de souris frais, on le présente à des souriceaux, ils vont répondre de façon positive, mais de façon beaucoup plus lente et moins nette. Chez le lapro, la réponse, en 3 secondes, on l'a. Chez la souris, ça va, ça vient, c'est variable. Et on fait la même expérience avec du lait humain, chez le nouveau-né humain. Pareil, le nouveau-né humain, il répond positivement à l'odeur du lait par rapport à du lait artificiel ou à de l'eau. Il va plutôt vers le lait humain. Donc on a une réponse chez le lapin extrêmement rapide et quasiment immanquable. Alors c'est plus variable chez les deux autres modèles, la souris et l'humain. Alors pourquoi ? on ne sait pas pourquoi, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un corrélat écologique ou comportemental, c'est que le lapro, il a 5 minutes par jour pour accéder à la mamelle maternelle. La lapine n'allaite ses petits qu'une fois par jour pendant 5 minutes. Donc il ne faut pas qu'il loupe l'occasion. Alors que le souriceau et le nouveau-né humain, ils ont tout leur temps. Et probablement que cette phéromone a coévolué avec cette absence de la mère et cette urgence absolue de choper une tétine maternelle quand la mère se présente. Parce que si elle ne se présente pas, ben, il se passe 23h55 pour le prochain coup. Ok ? Et donc on voit que le système nerveux, olfactif du moins, se développe dans le cadre d'une interaction mère-enfant très particulière. Et l'interaction mère-enfant détermine plus ou moins comment le nouveau-né va répondre.
Ce que je comprends en écoutant Benoît Chasle, c'est l'importance du goût et de l'olfaction des fœtus dans l'histoire de l'évolution. Mais alors, est-ce que l'on peut dire que les goûts et les odeurs acquis in utero participent de la préservation de certaines espèces ? C'est une question qui me taraude depuis le début de notre discussion. Mais alors, dites-moi Benoît Chasle, quand le bébé naît, le nouveau-né, qui va ramper sur le ventre de sa mère pour arriver jusqu'au sein, qu'est-ce qu'il sent ? C'est ce qu'il a appris ?
C'est probablement ce qu'il a appris. C'est probablement ce qu'il a appris in utero, qu'il retrouve. Alors, on a pu montrer que, par exemple, que si la mère mange du cumin,
ouais.
C'est une expérience qu'on a faite, on a donné à des gélules de la poudre de cumin à manger à des mères, eh bien, on retrouvait le cumin dans le liquide amniotique, dans le lait et dans la sueur. C'est-à-dire que non seulement l'enfant va trouver les substances ou les flaveurs, les odeurs de ce que la mère a mangé de façon spécialisée, in utero ou sur la surface mammaire, mais aussi sur tout le corps de la mère. Et donc il peut se repérer, il sera même dans les bras de la mère, il peut être dans une ambiance olfactive familiarité qu'il a acquis in utero.
C'est-à-dire, il n'y a pas de rupture.
Il n'y a pas de rupture sensorielle,
olfactive,
entre le milieu prénatal et postnatal.
Donc, si je résume, non seulement le fœtus est capable de sentir in utero, mais il apprend et mémorise les odeurs apprises. Et cette expérience sensorielle prénatale sera une sorte de boîte à outils du nouveau-né, une sorte de fléchage pour se repérer dans son environnement après la naissance. C'est ce qu'on appelle la continuité transnatale. Cette préparation sensorielle, acquise in utero, aidera le nouveau-né à s'adapter et à gagner du temps dans toutes les batailles qu'il doit mener pour sa survie. Mais comment le fœtus a-t-il accès aux odeurs ? Par le nez ? Oui. Mais pas seulement. Le fœtus a d'autres accès aux odeurs in utero. C'est ce que Benoît Chasle m'a expliqué et cela m'a vraiment étonnée.
Le fœtus est en échange permanent avec sa piscine amniotique, si on peut dire. Alors bien sûr, les odeurs, l'accès des odeurs à ce liquide amniotique, il y a plusieurs accès possibles. Il y a l'accès par la voie ingestive, ce que la mère mange, est digéré, passe dans l'intestin, passe dans le sang maternel et rejoint le sang fœtal. Et du sang fœtal, il passe dans le métabolisme du fœtus et passe par la voie rénale, urinaire, il passe dans le liquide amniotique.
D'accord.
Donc ça met un certain temps. Un autre moyen d'accès, qui est pour le moment hypothétique chez le fœtus, mais qui a été documenté chez l'adulte, c'est que l'odeur du sang qui arrive au système olfactif peut être analysé par ces récepteurs. Donc les récepteurs peuvent réagir au sang, aux flaveurs, aux odeurs, qui sont transmises par les capillaires sanguins qui, en fait, irriguent la muqueuse olfactive.
Question, le sang a une odeur ?
Ah oui.
Alors ça a un goût salé ?
Oui.
Et féreux ?
Féreux, tout à fait.
Mais
tout à fait. Alors,
j'avais jamais pensé que le fœtus...
Le fœtus pourrait, c'est une hypothèse, mais ça a été documenté expérimentalement chez l'adulte. Un rat à qui on injecte une odeur d'ail, sans qu'il ait accès par l'air, uniquement par le sang, eh bien on peut le conditionner à l'odeur d'ail simplement en amenant l'odeur par le sang. Donc il y a une analyse possible, sensorielle possible, par voie, ce qu'on appelle la voie hématogénique.
Et c'est tout. Là, on a fait le tour.
Alors non, il y a d'autres voies. Il y a la voie inhalatoire. Quand la mère inhale un parfum ou du tabac en combustion, là, c'est une autre voie. C'est une voie beaucoup plus rapide. C'est-à-dire que ça va au poumon de la mère et ça passe directement dans le sang maternel. Il n'y a pas cette étape relativement lente qui est celle de la digestion. Là, on passe dans le sang directement.
D'accord.
Et en quelques minutes... cette information d'odeur peut passer au fœtus. La mère n'a pas fini de fumer sa cigarette, le fœtus est déjà informé que quelque chose a changé dans l'environnement.
Donc ce qui passe par les poumons, ce qui passe par le sang, ce qui passe par la bouche et...
Et alors ce qui passe par la peau.
Bien sûr, la crème, moi je pensais aux crèmes.
Toutes les cosmétiques, tous les produits déodorants, etc. Tout ça, c'est la peau est une enveloppe très très perméable. Et tout ce qu'on met sur la peau, ça passe au fœtus de façon relativement efficace.
Donc ça, c'est tout ce à quoi le fœtus est exposé. Toutes les odeurs et les flaveurs auxquelles le fœtus est exposé. Mais c'est un nez énorme, j'ai envie de dire, ce fœtus.
Alors le fœtus, c'est un bon nez qui est dans des conditions écologiques où le nez fonctionne bien, comme je vous disais. Cette barrière R-O n'existe pas, c'est O-O, entre l'eau et le mucus aqueux. Donc tout est facilité. Et donc là, tout est prêt pour détecter les odeurs et pour les apprendre. Après les récepteurs, il y a un système cérébral qui est extrêmement plastique, qui est modulable par l'environnement. Et il y a eu des expériences faites chez la souris qui montrent très clairement le fait d'exposer le rat à une odeur A va développer certains glomérules olfactifs qui sont dans la partie du cerveau qui détecte les odeurs, le premier relais, le bulbe olfactif. Et ça modifie la structure du bulbe olfactif. Un raton exposé à l'odeur A, un souriceau exposé à l'odeur A et un souriceau exposé à l'odeur B vont avoir des systèmes olfactifs légèrement différents.
Et ça va faire des personnes différentes.
Et ça va faire des personnes qui, point de vue de l'analyse de l'environnement olfactif, vont être différents. C'est ce que des collègues israéliens disent, on est différent. Non seulement on est différent, mais on est différent.
Et ça participe de notre personnalité, de la multitude.
De notre multitude.
De notre multitude.
Individuelle, familiale, culturelle, etc.
C'est passionnant, hein.
C'est absolument passionnant. Vous comprenez que quelques décades de travail sur l'odorat n'épuisent rien.
Benoît Chasles est décidément un chercheur heureux. Heureux du bout de chemin qu'il a fait avec les fœtus, modestement. Benoît Chasles s'intéresse à l'origine des sens, à l'origine de la perception des goûts, des odeurs chez le fœtus. Et vous n'imaginiez peut-être pas l'importance de ces premières fois, de ces premières perceptions in utero. Les perceptions du fœtus vont orienter les comportements futurs et les choix de l'enfant à venir. On sait aujourd'hui que tout cela va contribuer à déterminer la personnalité de chacun. Dans le prochain épisode d'In Utero, je vous propose d'entendre Marie-Claire Busnel, une autre grande chercheuse. Elle a été la première à démontrer scientifiquement que les fœtus entendent. Quand j'ai rencontré Marie-Claire Busnel, elle avait 98 ans. Elle nous a quittés il y a quelques semaines. Ce que je n'oublierai pas d'elle, ce sont ses yeux bleus vifs et cette phrase qu'elle aimait répéter « Ce n'est pas parce que c'est inconnu » que cela n'existe pas. In Utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. In Utero est un podcast original de France Inter.